Il est exactement 7h52 minutes. On s'apprête à aller parler à Lambert Drainville de ce passage de Geneviève Guilbeault à la commission Galland. Max, est-ce qu'il se passe quelque chose dans la circulation?
Ouais, tranquillement, pas vite. Je vous dirais qu'on est en train de revenir à une circulation plus lourde avec le retour à l'école. Visiblement, le retour au travail aussi pour pas mal tout le monde, là, tranquillement, pas vite. Capitale Ouest, avant l'avenue du Bourg-Royal jusqu'à Laurentienne, c'est au rouge. Robert-Brossard-Sud vers le boulevard Le Bourgneuf, c'est assez compliqué. Henri-IV-Sud, hauteur Chauveau-Ouest, petit ralentissement également. Sinon, en s'en allant vers Shannon, dans le coin de la base militaire, ben, c'est le retour vraisemblablement des difficultés de circulation à cet endroit-là. Laurentienne, direction sud, hauteur rue de la Faune, assez compliqué présentement. Et l'accès au pont Pierre-Laporte, direction nord, c'est au rouge aussi.
Il teste son nouveau studio avec nous en direct à Boulevard 102.1. On l'adore. C'est notre chroniqueur politique et il est présent sur différentes plateformes web. Lambert Drainville. Lambert, passez une belle fin de semaine?
Oui, une belle fin de semaine. Une meilleure fin de semaine probablement que certains ministres.
Ouais, mais parlant de ça, Geneviève Guilbeault qui y va d'une story sur ses médias sociaux samedi. Petite photo en nature avec le soleil, ses lunettes fumées, en mentionnant « Merci pour vos messages après une grosse semaine ». Me semble que j'aurais essayé de me faire oublier si j'avais été Geneviève Guilbeault en fin de semaine.
Ouais, je vais apporter un petit peu de nuance au courant de la chronique, mais ça faisait partie des éléments que j'avais soulevés, moi, de Mme Guilbeault. Évidemment, la politique a sa part de responsabilité dans tout ça. Moi, je vais revenir sur, je te dirais, qui a le gros de la responsabilité dans toute cette commission-là jusqu'à maintenant, ce que j'en comprends, mais... Un des éléments que j'avais soulevé pour la ministre Guilbeault, c'est peut-être que c'est un petit exercice d'humilité aussi, puis peut-être se poser des questions sur, disons, à quel point elle fouille ses dossiers. Puis je trouve que c'est une ministre qui met beaucoup, beaucoup de temps sur ses communications, qui met beaucoup, beaucoup de temps sur son image. Et je trouve qu'avec ce qu'on a entendu à la commission Galland et tout ce qui en ressort, c'est peut-être le moment pour elle, effectivement, comme tu dis, Jeff, de se recentrer sur le contenu et au profit peut-être d'un peu de contenant, là, si tu comprends ce que
je veux dire. Je suis tellement d'accord avec toi. D'ailleurs, vendredi, tu m'as texté, c'est la catastrophe aux alentours de 15h15 concernant là, le témoignage de Geneviève Guilbeault. Moi, Lambert, j'en reviens pas qu'on gère la plus grande transformation numérique de l'histoire du Québec. On reçoit un courriel de la SAC avec trois documents pièces jointes et on ne le lit même pas. Quand tu parles de contenant et de contenu, pour moi, ça fait pas de doute que Geneviève Guilbeault était pas du tout positionnée, avait pas les priorités aux bons endroits.
Ouais, j'ai quand même pris le temps, là, je te textais, j'étais dans le show de la chose. Là. Je vais quand même prendre le temps de nuancer la chose. Là. Moi, je veux que ce soit clair là, avec tous les gens qui nous écoutent. Là. Pour moi, là, ce scandale, ce fiasco. Ça clique là, je veux que ce soit clair, là. C'est d'abord et avant tout la responsabilité d'abord des dirigeants de la SAQ. On a entendu parler de Denis Marcellet, de Karl Malenfant, beaucoup les noms qui sont revenus. Il y a des appels d'offres qui ont été arrangés, il y a une clique qui se donnait les contrats, les vérificateurs à l'interne ont été ignorés, voire même intimidés. Et dans un deuxième temps, c'est le CA de la SAQ là, qui a quand même un rôle de chien de garde auprès de l'institution et qui a clairement pas fait son travail. Là. Leur job, c'est de surveiller et de questionner au niveau des risques, au niveau des dépassements de coûts. Laisse-moi te dire que visiblement, là, ils m'ont plus donné l'impression d'être un chevreuil sur l'autoroute, ce CA-là. Alors, je veux que ce soit clair là, que pour moi, là, les premiers... Madame Monique-Jérôme Forget, vendredi, a utilisé une expression... là. Dans une entrevue au bilan, elle a dit « c'est une gang de pas bons ». JF, ces dirigeants-là et ce conseil d'administration-là, ce sont une gang de pas bons.
Et payés grassement, là.
Payés grassement, ils sont payés 300-400 000. À un moment donné, oui, il y a la responsabilité des ministres, mais les premiers responsables de ce fiasco-là, c'est d'abord les dirigeants de la SAQ. Tu sais... Quand tu as informé un ministre de dépassement de coûts de cette envergure-là, là, tu le fais pas à travers des napperons, à travers des PowerPoint, envoyé à travers une grosse manne d'informations en plein milieu du congé de Noël. C'est une décision qu'ils ont prise. S'ils n'ont pas caché la vérité, ces dirigeants-là, là, ils ont à tout le moins essayé de le voiler. Ça, c'est sûr et certain pour moi. Il faut comprendre comment ça se passe dans un cabinet ministériel là, au quotidien. Là. Madame Guilbeault, son équipe, là, ça se réveille à 5 heures, ça fait leur revue de presse. Et là, en faisant leur revue de presse, ben là, ils voient quel feu ils vont avoir à éteindre pendant la journée. Puis quand ce n'est pas les points de service de la SAQ qui sont en train de chier, si tu me permets l'expression, c'est le troisième lien. Quand c'est pas le troisième lien, c'est le tramway. Et quand c'est pas le tramway, c'est les avions pompiers, les feux de forêt. Quand c'est pas ça, c'est le tunnel Louis-Polyp La Fontaine. C'est comme ça que ça se passe au quotidien dans un cabinet comme les transports. Moi, j'ai été à la santé, je le sais, c'est très similaire. Alors, c'est sûr qu'à travers toute cette folie-là, quand tu as des fonctionnaires qui viennent te voir, qui te disent « Tout est beau, monsieur. Tout est beau, madame la ministre. Le plan suit son cours. Les voyants sont au vert. » Je te garantis que le premier réflexe des membres de ce cabinet-là, c'est de dire « Bon, ben parfait. Ce dossier-là, ça suit son cours. On va se concentrer sur les autres urgences qu'on suit maintenant. » Ça, c'est comment ça se passe dans la vraie vie au quotidien dans un cabinet ministériel. Maintenant, sur papier, ta job... Quand tu travailles en cabinet, et encore une fois, c'est pas facile à cause du contexte de crise perpétuelle dans lequel tu travailles, comme je viens de dire, mais c'est justement de poser les questions, c'est de trouver les bébites, c'est de trouver la virgule, le chiffre dans la colonne qui est le drapeau rouge que là tu vas faire excusez monsieur le fonctionnaire, excusez monsieur le PDG, c'est quoi exactement ce chiffre-là? Et c'est ça la responsabilité de l'équipe du ministre. Et c'est ça visiblement que le politique n'a pas fait. Leur faute dans tout ça, c'est un manque de diligence. Et quand Geneviève Guilbeault dit « Oui, j'ai eu l'info », c'est-à-dire que oui, le PowerPoint y a été fourni, mais qu'elle n'en a pas pris connaissance en ce 20 décembre, moi, je la crois. Je pense que c'est vrai et ça me ramène au point avec lequel j'ai commencé. Il y a eu un manque de diligence, il y a eu un manque de gratter le bobo. Et c'est ça la responsabilité d'un ministre, c'est ça la responsabilité ministérielle. Ça vient avec beaucoup de pouvoir être un ministre, mais aussi avec des grosses responsabilités. Et encore une fois, pour revenir à mon point initial, Mme Guilbeault, peut-être qu'elle pourrait passer un petit peu moins de temps sur ses réseaux sociaux et s'assurer de bien regarder les pièces jointes qui lui sont fournies, de bien passer le message à son équipe aussi, de vérifier chacun des alinéas, chacune des virgules. Elle est dans un cabinet qui ne cesse, depuis que la CAQ est au gouvernement, de changer. Elle a beaucoup de difficultés à garder une stabilité au niveau de ses équipes. Puis tu as besoin d'une équipe stable, tu comprends-tu? T'es là, tu fais affaire avec des fonctionnaires qui sont là depuis des années, qui sont dans les mêmes dossiers depuis des années, qui vont être là, toi, quand mec, tu perds une élection, l'autre, ils vont rester là. Fait que si tu veux avoir une équipe qui peut challenger ces fonctionnaires-là, Il te faut des conseillers politiques, des directeurs de cabinet, des directeurs de cabinet adjoints qui restent là longtemps pour s'approprier les dossiers, pour pouvoir les approfondir, pour poser les bonnes questions. Puis Mme Guilbeault a eu beaucoup de difficultés au fil des années à garder une équipe stable.
Puis Lambert, je trouve ça intéressant de faire le portrait complet, puis de le mettre sur la table, là, puis que tout le monde le voit bien là que il y a une gang de pas bons qui a pas fait sa job, puis c'est pas juste de la faute à Geneviève Guilbeault. Ça, fine, parfait. Maintenant, puis tu l'as dit aussi dans ton autre portion de réponse, Geneviève Guilbeault a pas réussi à faire le travail qu'on attend d'elle, puis en bout de ligne aussi, le fait, c'est que Geneviève Guilbeault, c'est directement la population qui vote pour elle pour qu'elle fasse la job. Alors que les autres, ben on n'est pas là-dedans. Mais fait que là, dans ce contexte-là, que Geneviève Guilbeault a pas bien fait sa job, puis qu'on a voté pour elle pour qu'elle fasse une job qu'elle fait pas, c'est quoi là, les conséquences? Est-ce que après cette catastrophe-là, Commission Galant, Geneviève Guilbeault peut plus être ministre? T'as l'impression qu'elle va bien s'en sortir?
Mon point là-dessus, tu sais, je pense que Mme Guilbeault, son témoignage était difficile. Je pense que l'avocat aussi qui la questionnait durant l'audience était très, très insistant. Je pense que Mme Guilbeault, elle est arrivée, elle n'avait pas été informée par M. Bonnardel, qui est son collègue. Même partie, elle est arrivée, là, puis le projet là, en 2023, là, il était terminé. Là. C'était rendu à l'étape du déploiement, un déploiement qui, oui, a été une catastrophe. Mais tu sais, les erreurs quant au dépassement de coûts, là, ils ont été faits avant elle. Tu comprends? Ce qui a été difficile pour Mme Guilbeault, c'est vraiment son témoignage jusque-là. Bon, elle s'est contredit, on sentait qu'elle n'était pas super à l'aise. Ta question, c'est politiquement, tu sais, c'est la première fois avec le témoignage de M. Bonnardel et de Mme Guilbeault que le nom de M. Legault a été soulevé à la commission, que le nom de son directeur de cabinet a été soulevé à la commission. On sent que ça se rapproche du premier ministre. Et moi, ce que je sens dans l'entourage du premier ministre, c'est justement qu'on veut garder le plus de distance possible entre M. Legault et ce dossier-là, bien évidemment. Alors, ma réponse pour toi, c'est dans l'optique où M. Legault, il veut se distancer de ce dossier-là. Il veut en même temps envoyer le message que la CAQ fait preuve d'humilité, fait preuve d'écoute. On est prêt à un nouvel élan. On veut repartir à zéro, se recentrer sur les priorités qui ont fait le succès de la CAQ dans le passé. Je vous en parlais la semaine passée. Mais c'est sûr que pour moi, là, politiquement, puis il y a des gens qui n'aimeront pas ça, ce que je vais dire, mais si tu veux envoyer un message, là, un vrai de vrai message, là, moi, je pense qu'il y a un ou ces deux ministres-là que tu ne renommes pas au Conseil des ministres. À tout le moins un, si tu veux envoyer un sérieux message que, écoutez, on n'accepte pas ça, puis on comprend qu'il y a une gang de pas bons à la tête de ces organisations-là, mais à un moment donné, tu as une responsabilité en tant que ministre, comme tu l'as dit, Max, ces gens-là sont élus, ces gens-là sont nommés, c'est un honneur d'être nommé ministre, et si tu veux envoyer un message politiquement qu'écoutez, j'ai compris la population et je comprends que les gens ne sont pas contents. Tu dégommes un de ces deux ministres-là.
Et si tu en prends juste un, Bonnardel ou Guilbeault?
Moi, je pense que sur le fond, Bonnardel a plus à se reprocher parce qu'il a été. Les deux n'ont pas posé assez de questions. C'est vrai pour les deux. Mais Mme Guilbeault est arrivée, le feu était pris, elle essayait d'atteindre ça, elle s'est mis les deux mains dedans. À un moment donné, elle a bien compris là, que ça dormait au gaz là, à la SAQ.
Elle a bien compris qu'il était des pas bons, là, c'est ça.
Elle a bien compris que c'était des pas bons puis qu'il fallait quelqu'un qui mène la barque. Fait qu'elle a dit, si vous êtes pas capable de gérer, moi, je vais essayer de m'en mêler.
Moi, il m'a le faire.
Ben, c'est ça. Si t'es pas capable de le faire, moi, je vais faire la job. Fait que, tu sais, en termes de responsabilité, moi, je pense que M. Bonnardel a plus à se reprocher. Maintenant, c'est sûr que sur la forme, comme on s'est dit, si je regarde les deux témoignages, c'est clairement Mme Guilbeault qui a le moins bien paru. Mais sur le fond, encore une fois, c'est M. Bonnardel, pour moi, qui a le plus de responsabilité dans ce qui a mené à tous ces dépassements de coûts, là.
Est-ce que tu dirais que Mme Guilbeault t'a parlé de sa stabilité dans son équipe? Je le sais que tu as des contacts à l'interne, Lambert. Moi, j'avais parlé avec des gens également qui ont déjà fait partie de l'équipe de Geneviève Guilbeault qui me disaient « J'en suis sorti parce que l'essentiel de mon travail, c'est de bien faire paraître la ministre sur les médias sociaux et moi, je veux faire de la politique. » Est-ce que tu crois justement que le fait qu'elle est trop sur le contenant fait en sorte que ça l'éloigne de gens compétents en politique?
Je veux pas trop embarquer dans les spéculations. La seule chose dont on est certain, comme tu dis, c'est que son équipe a beaucoup roulé. Et que c'est une ministre, effectivement, qui met beaucoup d'emphase sur la communication et sur son image publique. Moi, je pense que c'est d'abord et avant tout quelqu'un avec qui c'est pas nécessairement facile de travailler. C'est une ministre qui est très, très demandante. Puis, tu sais, loin de moi l'idée, là, c'est une femme qui est très, très brillante et qui a été un fort atout pour le gouvernement de la CAQ pendant plusieurs années.
C'est
là, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Mais c'est sûr que pour... C'est sûr que, tu sais, à la vue de ce qu'on voit au niveau du roulement d'employés dans ce cabinet-là, il y a clairement un enjeu. Et cet enjeu-là de roulement de staff, certainement qu'il a contribué, encore une fois, à ce manque de diligence envers l'information qui était fournie. Quand tu travailles dans un cabinet ministériel, là, JF, tu le sais que les fonctionnaires ils vont essayer de t'en passer des petites vites. Ils savent.
Fait qu'il faut que tu sois prêt à tout, là. T'as pas le choix.
Faut que tu sois prêt à tout. C'est sûr qu'ils vont essayer de t'en passer des petites vites. Si le projet dérape, c'est eux autres qui paraissent mal. Ils veulent pas mal paraître. Ils veulent te montrer un portrait qui est plus beau que ce qui est pour vrai. Puis c'est ta job de faire, écoute, mon gars, ça, ce chiffre-là en bas de la colonne, ça n'a pas de bon sens. Comment ça se fait qu'on a un dépassement de 30-40 millions une fois, deux fois, trois fois? Mais là, tabaslac, tu sais. C'est ta job d'aller gratter le bobo. Et quand tu as des équipes, encore une fois, qui sont inexpérimentées, qui roulent, qui arrivent dans un dossier, qui n'ont pas le temps de se l'approprier, alors contre des fonctionnaires qui, eux, maîtrisent ce dossier-là sur le bout de leurs doigts, bien, c'est facile de te faire à croire que tout va bien, puis c'est difficile en contrepartie pour ces employés-là de maîtriser assez bien ces dossiers-là pour poser les vraies questions. Alors, ma réponse n'est peut-être pas aussi limpide que vous l'auriez souhaité, mais la vérité, c'est que
Donc, on comprend très bien où tu vas aller. T'es le fait qu'il n'y ait pas d'équipe stable fait en sorte que tu challenges moins les fonctionnaires parce que tu es moins au courant des dossiers, parce que tu viens d'arriver dans le dossier.
Exactement. Exactement.
Lambert Drainville, à quel point la situation peut encore s'aggraver pour la CAQ dans cette commission Galland-là? Est-ce que tu as l'impression que l'on commence à avoir fait un petit peu le tour puis qu'on comprend ce qu'on avait à comprendre, ou tu as l'impression qu'il peut encore avoir des bombes qui sortent, que là, ça peut devenir encore pire, la situation pour la CAQ?
Bien, le pire qui pourrait arriver pour la CAQ à ce moment-ci, ce serait que d'autres élus aient à se présenter là. Je pense à M. Legault lui-même, évidemment. Là. Il n'a pas été appelé à témoigner, mais ça demeure une possibilité. Le commissaire aurait le droit de demander à ce qu'il vienne témoigner. Puis comme je disais, le dossier s'est quand même rapproché de lui. Son nom a été mentionné. Il y a eu l'échange courriel de Mme Guilbeault sur un ton très, très vindicatif envers le cabinet du premier ministre. Je pense que c'est pas dans les plans du commissaire pour l'instant, mais ça pourrait arriver. Ça, écoute, mon gars, ce serait la cata. S'il faut que le premier ministre se présenté à la commission Galland, ce serait vraiment pas top. Je pense que là, pour la suite, dans le moment, avec l'information qu'on a, je te dirais que le gros de la tempête semble passer. Là, ce qu'on attend incessamment, c'est le témoignage de Karl Malenfant, qui était le vice-président responsable des TI.
Prévu pour début septembre.
Oui, c'est ça, qui était, selon les dires de plusieurs, le chef d'orchestre derrière ce projet-là et donc le grand responsable de ce fiasco-là. C'est vraiment son témoignage qu'on va attendre avec grand intérêt. Puis après ça, on va tirer des conclusions à partir du rapport final que le commissaire va dresser.
Lambert Drainville, on fait un saut en politique fédérale. Comment tu trouves le travail de Mark Carney depuis son élection le 28 avril? Il s'est fait élire en promettant d'être le meilleur homme pour négocier avec Donald Trump, mais le Canada n'a pas encore signé de nouvelle entente économique avec les États-Unis. C'est un échec ou c'est tout simplement que Mark Carney continue à bien jouer ses cartes?
Je pense qu'il est un petit peu... il est victime des cartes qu'il s'est fait donner, en fait. Je pense que c'est plus ça. Je pense que, bon, évidemment, en campagne électorale, il veut se faire élire, met la barre très haute. Il doit gérer un président américain qui est absolument difficile à suivre. Moi, je te dirais que je trouve qu'il fait un assez bon travail, là, considérant, rappelons-nous, là, que c'est un gars qui n'avait aucune expérience politique là, quand il se présentait à la chefferie du Parti libéral. Je trouve qu'il a amené un certain sérieux, il a ramené un certain...
C'est clair qu'il y a un clash avec l'ère Trudeau, il n'y a pas de doute là-dessus. Là. On a un économiste bien drabe à la tête du pays en comparaison avec...
Il a l'air de savoir ce qu'il fait.
Ben oui. C'est ça, en comparaison avec Justin Trudeau qui aimait beaucoup le Kodak et la caméra, là.
Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup. C'est deux noms ça, qui aiment beaucoup le Kodak là, dont on parle dans notre chronique aujourd'hui, hein, Mme Guilbeault, M. Trudeau. Ouais. Mais absolument. Puis au niveau des relations internationales, c'était une catastrophe, l'ère Trudeau. Là. Le Canada était rendu complètement ridiculisé. Il se promenait déguisé en Inde. Il promettait d'envoyer des casques bleus, ce qu'il n'a jamais fait. La réputation du Canada à l'international a beaucoup souffert de l'époque Trudeau. Et donc, moi, je trouve ça, à tout le moins à ce niveau-là, je trouve qu'on retrouve un certain sérieux. Monsieur Carney était à Kiev pour
la journée. Oui, bien justement, c'est ça, je voulais te parler avec toi. Visite surprise en Ukraine hier pour la fête nationale des Ukrainiens. Mission économique en Europe cette semaine où on va visiter trois pays, notamment l'Allemagne. Retrait de contre-tarifs dans le secteur manufacturier par rapport aux États-Unis. Est-ce que Carney met de plus en plus de pression sur Trump en y allant de gestes autant symboliques avec sa visite en Ukraine que des gestes pour relancer l'économie canadienne avec sa visite en Europe?
Je pense pas que M. Carney a l'ambition de mettre de la pression sur Trump. Il faut quand même être réaliste. Là. C'est la plus grosse économie au monde. Je pense qu'il essaie de se donner des options. Je pense que présentement, il a fait un gros travail de diplomatie au niveau de l'Europe. Il a déjà signé des contrats au niveau militaire avec l'Europe. Il cherche des nouveaux partenaires au niveau, encore une fois, de l'Europe. Et je pense que ses efforts pour diminuer la dépendance du Canada envers les États-Unis sont réels et vont porter fruit. C'est sûr que c'est des choses qui sont sur le long terme beaucoup plus. Mais je pense que d'un côté, il se donne des options ailleurs dans le monde, renoue avec d'anciens alliés, reconstruit la réputation du Canada à l'international. Et de l'autre côté, par rapport aux États-Unis, c'est plus de gérer le personnage et d'essayer de ne pas, d'essayer de le flatter dans le sens du poil, d'essayer de ne pas le contredire, de ne pas le fâcher. Puis ça, on l'a vu aussi là, quand il a salué les efforts de M. Trump dans, disons, les négociations pour la paix en Ukraine, là. Fait que tu vois que d'un côté, il essaye de pas trop le fâcher, il essaye de maintenir ces relations-là, ce qui semble bien fonctionner. M. Trump a constamment des bons mots envers M. Carney,
Clairement.
ce qui est encore une fois bien différent de la façon dont il parlait de M. Trudeau. Puis d'un autre côté, il est très, très pragmatique, puis les efforts sont là pour diminuer la dépendance du Canada aux États-Unis. Puis ça, je pense que c'est très bien, là. Il est sur le bon piton.
Lambert Drainville, on est très heureux d'avoir testé tes nouveaux studios avec nous ce
Le
matin
son était
pour voir
bon?
101. Le son était bon. Des
Yeah.
petits glitches un peu une fois de temps en temps, mais c'est peut-être notre connexion là, qu'on va retravailler nous aussi de notre côté. Mais c'était
OK.
très bon. Alors, merci beaucoup. Lambert, on continue à te suivre sur toutes tes plateformes, donc Facebook, Instagram, TikTok, etc.
Exact, YouTube aussi.
YouTube aussi, donc on continue à te suivre sur toutes tes plateformes et au plaisir de se reparler très rapidement, mon ami. Je te souhaite un excellent début de semaine.
Merci, messieurs, une belle journée.
Salut Lambert, bonne fin de journée.
Bye bye.
C'était Lambert Drainville, chroniqueur politique sur différentes plateformes web, ancien justement conseiller politique autant pour le Bloc québécois que pour la Coalition Avenir Québec. Donc toujours intéressant parce que quand il parle d'inside à l'interne, il parle à des gens qui sont encore justement dans le domaine de la politique. Alors très, 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 très intéressant la chronique de Lambert aujourd'hui. Le contenant avant le contenu pour Mme Guilbeault. C'est ce que je retiens.
Ouais, il faudrait comment. Puis il commence à être trop tard un peu pour ça, là.
Ouais, exactement.
Mais après, on en a pour les autres, peut-être.
C'est ça. Les carottes sont peut-être cuites, justement, pour Geneviève Guilbeault. On fait une courte pause. Par la suite, on revient avec l'essentiel de l'actualité. Et il y a également le député de Jean Talon pour le Parti québécois, Pascal Paradis, qui va venir nous voir en studio. On va continuer, justement, à parler de ce témoignage de Geneviève Guilbeault. Je veux qu'on parle avec lui également des jeunes en politique. Il n'y en a pas assez, selon Sol Zanetti. Est-ce que Pascal Paradis est d'accord avec ceci? On en parle après la courte pause qui suit. Vous êtes à Boulevard 101. C'est Boulevard Against le matin.
Boulevard Against le matin.